RFI. Grand reportage.
When the industrial area came,
quand la révolution industrielle est arrivée, le bois a été considéré comme un matériau pour les pauvres. Maintenant, l'état d'esprit a changé, on est revenu au matériau local, travaillé localement, et on n'en est qu'au début.
We're in the beginning there now.
Des bâtiments en bois toujours plus hauts, avec la volonté de réduire les émissions de CO2 et d'utiliser des matériaux plus sains et plus économes en énergie, la construction en bois a le vent en poupe. Mais aujourd'hui, on ne se limite plus à construire des chalets, des maisons individuelles ou de petits immeubles. L'ère des gratte-ciels en bois est arrivée, c'est notamment le cas à Skellefteå, dans le nord de la Suède, où a été inaugurée il y a quelques semaines une tour de 20 étages, ou en Norvège, avec une autre tour de 85 mètres. Scandinavie, des gratte-ciels en bois toujours plus hauts. C'est un grand reportage de Frédéric Faux.
Robert, est-ce que ça m'a fait poste?
Pour l'architecte Oscar Norelius, l'un des deux concepteurs de la Sara Kulturhuset, un centre culturel surmonté d'un hôtel et culminant 20 étages plus haut par un spa et une piscine, le bois permet aujourd'hui de tout faire. Dès le grand hall, où les poutres semblent sortir du plafond.
On a voulu que cette entrée soit chaleureuse. Notre fil conducteur, c'est le bois et on l'a suivi jusqu'au bout.
Après une volée d'escaliers, nous arrivons dans les salles de spectacle.
Voilà la scène 1. C'est la plus grande du centre culturel avec 1200 places assises. On peut y faire du théâtre, de la danse, des concerts. Toute la structure ici est en bois massif, comme dans le reste de l'immeuble. Le bois est plus léger, il permet une construction plus rapide, plus saine, plus silencieuse. Les murs ont plus d'un mètre d'épaisseur. Ce sont des murs doubles, complètement séparés pour une meilleure acoustique. C'est une façon différente de construire.
Pour voir une de ces solutions, il faut prendre l'ascenseur qui dessert l'hôtel.
C'est la première tour en bois de 20 étages au monde. Ça n'a jamais été fait avant. En sortant de l'ascenseur, on est passé par une paroi en bois épaisse de 42 cm. Ce sont elles qui stabilisent toute la tour. Vous pouvez voir qu'elles sont connectées entre elles par des plaques en métal. Et voilà les chambres. Ce sont des modules préfabriqués qui sont montés par grue et vissés directement à la structure.
Avec sa façade de bois recouverte d'une peau de verre qui donne l'impression que la tour flotte au-dessus des toits environnants, la Sara Kulturhuset est déjà devenue un monument iconique de la ville de Skellefteå, à 600 km au nord de Stockholm. Mais il y a d'autres tours en bois qui tutoient les sommets, comme le Wood Hotel, ouvert en mars 2019 en Norvège, au bord du lac de Mjøsa.
Cette plaque prouve que cette tour fait 85,40 m de haut. C'est la plus haute tour en bois du monde. On savait qu'il y avait une construction similaire en Autriche et on a fait un étage de plus pour être bien sûr qu'on soit la plus haute.
Øyvind Frisch est fier de son hôtel, mais aussi de son bilan financier et de son bilan carbone. Car alors que la fabrication d'un mètre cube de béton émet des gaz à effet de serre, celle de la même quantité de bois en absorbe pour toute la durée de vie du bâtiment.
Le prix de construction a été le même que pour une tour en béton et en acier. En plus, l'acier serait venu de Chine jusqu'à Oslo en bateau et puis ensuite en camion jusqu'ici. Alors que là, on a juste fait quelques kilomètres pour avoir le bois. 12 000 arbres qui ont capturé du CO2 pendant 75 ans et qui vont le garder dans cette tour pendant encore un siècle. Nous sommes déjà dans un futur durable.
Le bois n'est pas une découverte en Suède. La forêt couvre 70% du pays et surtout, elle a toujours été au cœur de l'économie nationale. Près de Skellefteå, un village-église témoigne des tout débuts de la ville. Les propriétaires forestiers y ont construit des cabanes en bois pour pouvoir passer la nuit après le long voyage qui leur permettait d'assister à la messe dominicale. Et aujourd'hui, elles sont toujours debout. Bo Wikström est guide pour la mairie.
Là, nous sommes en train de marcher au milieu de ce que l'on appelle en suédois Bonstan.
un village d'environ 190 maisonnettes en bois avec un étage. C'est l'endroit où tous les habitants de la paroisse se réunissaient pour les services religieux du week-end. Certaines de ces poutres ont 900 ans et comme vous pouvez le voir, elles sont toujours intactes. Des milliers et des milliers de troncs ont fait jusqu'à 300 km sur les fleuves jusqu'aux scieries de la côte. Chaque tronc est taillé à la hache, il se croise à chaque angle de la maison et il est important que ces poutres s'emboîtent de façon parfaite. C'est donc une méthode de construction qui garde la chaleur à l'intérieur, même pendant les hivers très froids, quand il fait moins 35 à l'extérieur. Mais parmi les habitants de Skellefteå, il y a eu des sentiments mitigés. Est-ce vraiment quelque chose dont on devait être fier ? Quand la révolution industrielle est arrivée, le bois a été considéré comme un matériau pour les pauvres. Maintenant, l'état d'esprit a changé, on est revenu au matériau local, travaillé localement, et on n'en est qu'au début.
Local, mais aussi écolo, léger, propre. Il est vrai que l'usage du bois se développe à grande vitesse dans toute la Scandinavie. En Suède, 20% des nouvelles constructions sont d'ores et déjà en bois. À Vaxrö, c'est la gare qui est en bois. À Uppsala, un immeuble de bureau de 7 étages. À Skellefteå, d'ailleurs, il n'y a pas que la Sara Kulturhuset qui soit en bois. Cette ville en pleine croissance, dans laquelle va ouvrir à la fin de l'année la méga usine de batterie de Northvolt, a besoin très rapidement de logements et d'infrastructures afin d'accueillir des centaines de salariés. Et lorsqu'on est pressé, le bois est idéal. Bo Wikström.
Juste de l'autre côté de la rue, vous pouvez voir l'un de nos premiers immeubles d'habitation en bois, 4 étages. Juste en bas, il y aura un pont en bois qui sera le plus long de Scandinavie, sur 400 mètres pour le trafic routier, les vélos et les piétons. À droite, un autre chantier en bois, 4 immeubles d'habitation avec une méthode de construction qui fait commencer par le toit. Donc vous avez les 4 toits, ils les soulèvent, construisent le premier étage, les soulèvent encore, font le 2e étage et ça permet de construire tout l'immeuble au sec.
De nouvelles technologies comme le CLT ou le GULAM ont aussi contribué à rendre le bois encore plus séduisant pour les architectes. Nous sommes à Buxilium, à une 50aine de kilomètres de Skellefteå, où se situe l'une des 4 usines suédoises de CLT, ou bois laminé croisé. Les troncs précédemment écorcés s'engouffrent dans la chaîne. Ils sont découpés en planches et les murs d'entre elles sont assemblés en plusieurs nappes, orientées à 90 degrés l'une de l'autre. Olof Martinsson est le directeur du site.
And then you add glue and then you...
Vous mettez de la colle et vous ajoutez une autre couche de bois. On peut croiser 3, 5 ou 7 couches. Les panneaux les plus grands font 16 mètres sur 3 avec une épaisseur qui peut atteindre 30 cm. Le bois bouge beaucoup sur les côtés mais pas dans le sens de sa longueur. Donc si vous croisez les couches, vous obtenez un panneau très stable, très léger et très solide par rapport à son poids que vous pouvez utiliser à la place du béton dans la construction d'un immeuble. Ensuite, ces panneaux vont sur une découpeuse multiaxiale qui permet de faire les emplacements pour les portes, les fenêtres, les gaines électriques, ce que vous voulez.
D'une chaîne similaire, où des lattes sont assemblées bout à bout, sortent des poutres porteuses en glue lame.
Là, vous voyez la colle que l'on met sur les lattes, ensuite on met ça sous pression. Ici, on peut faire des poutres qui font 90 cm de section pour 24 mètres de long. Une même poutre en bois brut serait moins résistante, car dans la fabrication du glulam, les faiblesses du bois sont distribuées équitablement dans la poutre. C'est aussi très résistant au feu. Cette partie de la scierie faite en glulam a brûlé en 1974, mais le bâtiment est toujours debout. On a juste passé une couche de peinture.
But the construction is still standing and just painted again.
Le principal obstacle au développement du bois, finalement, n'est pas technique, mais culturel. Au fond de notre mémoire collective, alimentée par des siècles d'incendies et de catastrophes, il est écrit que le bois casse et qu'il brûle. Cela a traumatisé la Suède jusqu'à une époque récente, comme le raconte Tove Wallsten de l'Association suédoise des architectes.
Des villes entières en bois, avec des rues étroites qui ont brûlé. À Sundsvall, par exemple, une ville dans le nord, ça a été une des plus grandes du milieu du 19e siècle. Donc oui, c'est un traumatisme. Et du coup, on voulait arrêter ça et on dit qu'il ne faut pas que ça brûle. Le gouvernement a décidé qu'on ne pouvait pas construire plus haut que 2 étages en bois. Et c'était tout. Et c'est quand on faisait partie de l'Union européenne en 94-94, ça a changé.
À Cheleftio, des chercheurs tentent aussi de lutter contre ces idées reçues sur le bois. C'est le cas de José Cuseiro, du département de technologie du bois de l'université de Luleå, et de Göran Berggren, qui travaille pour l'Institut de recherche de Suède. Qu'est-ce que vous avez dans la main ?
C'est un morceau de bois qui a brûlé. Quand une grande épaisseur de bois brûle, cela crée une couche de charbon à la surface qui protège le reste du bois.
Les structures en bois se comportent très bien face au feu, alors que l'acier, lui, fond, et les structures en acier s'effondrent. C'est quelque chose que j'ai parfois entendu au cours de conférences. Bon, c'est peut-être un peu exagéré, mais on dit que si le World Trade Center avait été en bois, il ne se serait pas écroulé.
Non, le problème du bois, ce serait plutôt l'humidité.
Alors là, vous pouvez voir 2 scanners. On peut y entrer des troncs entiers. Et ce scanner est relié à une chambre de séchage. Donc nous pouvons sécher le bois et voir ce qu'il se passe dans le bois pendant qu'il sèche. C'est le seul endroit au monde où on peut faire ça. Dans un arbre vivant, vous pouvez avoir plus d'eau que de bois. Et quand vous le séchez, votre objectif, c'est de descendre entre 6 et 16% d'eau. Car si le taux d'humidité est supérieur, le bois va se dégrader. C'est pour ça que le séchage est une étape très importante pour l'industrie du bois. C'est très délicat car il peut faire apparaître des défauts comme des fissures, des déformations et puis ça consomme beaucoup d'énergie. Là, je vais vous montrer ce qu'on est en train de faire. Je vais bouger le scanner. C'est un test sur du contreplaqué qui sert à faire des meubles. Il y a beaucoup de problèmes quand l'humidité pénètre dans ce bois. Donc j'ai mis de l'eau sur cette pièce, je l'ai laissée pendant 24 heures et pendant ce temps-là, je l'ai scannée régulièrement pour étudier son comportement.
Ici, une trentaine de chercheurs étudient le bois sous toutes ses coutures et il reste encore beaucoup de choses à découvrir.
Cette machine permet de presser 2 morceaux de bois l'un contre l'autre en les faisant vibrer, ce qui génère de la chaleur et cela fait fondre le lignite, un composé chimique du bois qui, quand il se refroidit, se solidifie. C'est comme de la colle. Ces 2 morceaux de bois que j'ai dans la main ont donc été collés sans aucune colle.
Le bois est une valeur montante. Même la ville de Stockholm, où la volatilité du marché immobilier avait jusque-là incité les promoteurs à ne pas prendre de risques avec une nouvelle méthode de construction, s'est rendue à ses bienfaits. Le plus grand chantier de la ville en ce moment est à Hagastaden, près du périphérique nord. Une opération immobilière de 6000 nouveaux logements classiques, sauf au centre du site où il faut construire au-dessus d'une dalle couvrant une autoroute et des voies ferrées. Le béton étant trop lourd pour construire des immeubles à cet endroit, le bois s'est imposé. C'est Anna Hervast-Höberg qui supervise ce projet.
Dans cet immeuble, nous avons 9 étages et dans l'autre, 11 étages.
Et donc, impossible de faire ce type d'immeuble s'il n'était pas en bois.
Oui, si nous avions choisi le béton, il aurait fallu faire 2 fois plus petit. Là, vous pouvez voir comment il monte la façade. La structure est en CLT. Après, vous avez un isolant ininflammable, du contreplaqué, et encore au-dessus, on cloue un plaquage en cèdre. La couleur rappelle les façades en briques de la vieille ville, et ça ne demande ni peinture ni traitement.
Alors, on s'approche sur l'échafaudage.
C'est vraiment un chantier différent avec des outils simples. En Suède, il y a des ateliers de menuiserie à l'école et les outils sont à peu près les mêmes. Comme le bois est un matériau qui n'est pas dur, on n'a pas besoin de faire des forages comme dans le béton ou des choses comme ça, donc ça rend le site de construction plus propre, plus calme. Les ouvriers peuvent écouter leur musique partout.
Maintenant, on rentre dans l'immeuble.
Là, vous voyez la structure des murs qui est toujours visible. Ils sont préparés en usine pour recevoir, par exemple, les câbles électriques qui vont passer à l'intérieur. Donc, les éléments arrivent ici avec un haut niveau de finition.
Le morceau de façade qu'on a face à nous, avec une fenêtre, ça, c'est un élément.
Non, ils sont en fait plus longs. Ils font 3 mètres de haut et peuvent atteindre 12 mètres de long. Ces éléments sont vissés entre eux. Vous pouvez le voir, on a une vis là, là et là. Elles vont dans ce sens. Et à l'extérieur, il y a d'autres vis qui sont dans l'autre sens. Elles se croisent.
Donc il y a une simple vis tous les 30 ou 40 cm. Là aussi, c'est très simple.
Oui, il y a des différences très visibles avec les autres chantiers. Ici, nous avons un seul camion qui arrive chaque semaine avec tous les éléments pour monter un étage. Alors que les chantiers voisins en béton, ils n'ont que 2 éléments par camion à cause du poids. C'est donc très efficace. Nos ouvriers ne prennent que 4 jours pour monter un étage. Et comme il n'y a pas de temps de séchage pour le bois pendant qu'on monte un étage, on peut déjà, 2 niveaux en dessous, commencer à connecter toutes les alimentations, à câbler les faux plafonds. Il ne se passe qu'un an entre le début de la construction et l'arrivée des propriétaires. Sur un chantier en bois, on peut gagner la moitié du temps, au moins.
Sans oublier l'avantage écologique.
Tout le bois qui a servi à la structure de cet immeuble est en fait produit par la forêt suédoise en seulement 8 minutes. Quand il s'agit du changement climatique, les gens veulent en faire un peu plus que juste trier leurs ordures ménagères dans les bonnes poubelles pour le recyclage.
Ceder Hussein est le premier immeuble d'habitation en CLT de la capitale suédoise, mais ce ne sera pas le dernier. Ces appartements verts, bâtis pour un prix équivalent à celui du béton, se sont prévendus en quelques mois. Parmi les nouveaux propriétaires, Olof et Hossa, ravis, sont venus visiter un appartement témoin.
J'aime beaucoup la façade, elle est chaleureuse, très belle. Cette sensation du bois, j'aime ça, c'est relaxant. On devrait toujours être entouré par du bois. C'est bien aussi car ça capture du CO2. Et pour moi, c'est une des choses les plus importantes que j'ai retenues quand j'ai entendu parler de cet immeuble.
Oui, mais on cherchait aussi un appartement avec une architecture spéciale, car à Stockholm, il y a beaucoup de cubes blancs qui se ressemblent tous. On voulait quelque chose en plus.
Et le bois a tout pour se distinguer. D'ailleurs, pour Tove Wallsten, la nouvelle maison de la culture de Skellefteå en est la meilleure preuve.
Ce qui est exceptionnel ici, c'est que tous les cages d'escalier, tout, même ces tours porteurs qui sont souvent utilisés comme éléments stabilisateurs, ils sont en bois massif. Beaucoup n'a pas été fait avant. Du coup, il faut prouver qu'on peut le faire. Et donc, chaque bâtiment sert un peu comme exemple pour d'autres. Le but, ce n'est pas de faire les tours les plus hauts partout dans le monde, mais de changer l'idée de qu'est-ce qu'on peut faire avec le bois. On peut faire des lieux publics, on peut faire des écoles. Je pense qu'au début, quand on commence à utiliser un nouveau matériau, on cherche à remplacer ce qu'il y a déjà. Quand on a commencé à travailler avec le cast iron, le fer forgé, on imitait les constructions bois, mais on le faisait en fer. Et après, on se rendait compte que le fer pouvait plus, donc on pouvait aller loin, plus loin, on pouvait affiner, on pouvait faire autre chose. Je pense que pour le CLT ou les constructions bois, on est au début d'une évolution. Un robot coupe. Les morceaux bois comme on les veut, ils sortent de l'autre côté et on peut assembler la maison. Si on coupe droit ou si on coupe en courbe, ça ne coûte pas plus cher. Et du coup, je pense qu'on pourrait imaginer des espaces différents.
La seule limite du bois pour les architectes, c'est son poids, trop léger. Pour stabiliser leur tour, les architectes de Skellefteå l'ont ancré dans le béton et ont aussi coulé quelques dalles à des étages stratégiques. Non pas pour consolider la structure, mais pour éviter que l'édifice, par grand vent, ne bouge trop. À 80 mètres de hauteur, la sensation pourrait en effet être quelque peu désagréable.
Scandinavie, des gratte-ciels en bois toujours plus haut. Un grand reportage de Frédéric Faux. Réalisation Pauline Leduc.